Phénomène, c'est le mot que j'ai le plus lu en préparant l'émission de ce jour. Et il y a une série de chiffres aussi, dont ceci. 19, 21, 25, 30. C'est pas le loto, mais presque. Puisque ce sont les titres des albums d'Adèle, jeune anglaise triomphante, dès l'année 2008. À ce moment-là, le monde vit une crise financière historique. L'Angleterre n'était pas au mieux et elle, disait-on, sauvait rien de moins que l'industrie du disque. Le parcours est magnifique. Celui d'une gamine des faubourgs, élevée par sa mère, qui parle comme un charretier, aime lever le coude et possède une des plus grandes voix de la pop. Le storytelling autour du personnage est en phase avec l'époque. Adèle est une femme forte, mais qui pleure, parce que dans une histoire d'amour, on prend souvent cher. Elle se fait larguer, mais triomphe de son cœur brisé, avec des chansons qui cartonnent et qu'on garde en tête. Au cours de ses 13 années de carrière, de 2008 à aujourd'hui, le monde a changé aussi. L'industrie du disque n'est plus la même et surtout, les réseaux sociaux sont arrivés. Sur Twitter, Facebook ou Instagram, vous verrez peut-être que ce matin, il sera aussi question de Serge Gainsbourg grâce à Alex Baupin. Alex Baupin vient de livrer une nouvelle version de l'album Love on the Beat de Gainsbourg et un peu avant midi, on entre dans les coulisses de la reprise de Sorry Angel. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Le Point Éphémère, c'est le nom de la scène parisienne où Adèle se produit ce soir-là, 10 décembre 2007. Elle n'a pas encore publié d'album et le public est venu pour Karen Ann. Adèle assure sa première partie.
Bonsoir.
Bonsoir. Je m'appelle Adèle. That's all I can say in French. That's it.
Je m'appelle Adèle, c'est tout ce que je peux dire en français. Elle a les cheveux noués à la va-vite, elle est toute seule. Assise sur un tabouret haut, avec sa guitare sur les genoux. Elle se lance dans Hometown Glory, l'une des premières chansons qu'elle a écrites quand elle avait 14 ans.
I've been walking in the same way as I did. Missing out of cracks in the pavement. And tugging my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering.
Je marche comme d'habitude, en ratant les fissures entre les pavés, en faisant claquer mes talons, je marche, fière. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous, ma chère? Y a-t-il quelqu'un que je puisse appeler? Non, merci, madame. Je ne suis pas perdue. J'erre dans la ville. C'est tout.
Adèle Laurie Blue Atkins. C'est le nom complet d'Adèle.
Elle s'appelle Véronique Chalmet. Elle a écrit la biographie Hello, It's Me, une vie d'Adèle. Et ça commence avec cette chanson, Hometown Glory.
Alors en fait, c'est une ode à Londres, qui est sa ville natale quand même, parce qu'elle est née dans les faubourgs, mais Londres, c'est une espèce d'entité, c'est quasiment le personnage central de cette chanson. Et elle a composé cette chanson, en fait, dans une espèce d'élan d'amour pour cette ville, dans laquelle elle revient toujours, parce que même si elle part encore aujourd'hui aux États-Unis, en France, même bientôt, elle revient toujours à Londres, c'est son port d'attache, Londres.
From my hometown, maybe. And Maury's a phrase around my hometown. Ooh, the people I've made. Out of what wonders of my world. Out of what wonders of my world. Out of what wonders of this world. Out of wonders and hours.
Elle a grandi donc à Tottenham, à Brixton, qui sont des quartiers en fait du Grand Londres qui ont été façonnés par beaucoup d'influences. Tottenham par exemple, il y a plus de 110 nationalités, donc elle a été façonnée par le ska, par la musique jamaïcaine, par le reggae, par la musique folklorique turque même à Tottenham en particulier. Donc finalement, c'est un pot-pourri, un melting pot musical qu'elle va absorber comme une véritable éponge et qui va aussi faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui concilie des influences présentes et passées et qui sait aussi tout à fait exploiter l'air du temps.
Of these world are the wonders. Oh, my world.
D'une scène parisienne en 2007, on passe à Londres en 2021 avec
Allô ?
Jean-Daniel Beauvalet, journaliste installé en Angleterre, l'un des premiers à y avoir vu Adèle en concert.
J'ai découvert Adèle par hasard pendant un festival qui se tient tous les ans à Brighton qui s'appelle The Great Escape, qui est un festival de découverte de jeunes talents où il y a des centaines, voire des milliers de groupes qui jouent dans la ville, un peu partout, dans des cafés, dans des salles de concert, sur la plage. Et j'allais voir un groupe français qui s'appelle Sid Matters. Et là, j'étais surpris que déjà qu'il y ait beaucoup de monde pour la première partie, qui était quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Adèle, qui avait déjà son public, que des femmes. Et je me souviens être sorti de là assez secoué parce que je trouvais ces chansons magnifiques. Je trouvais qu'elle les interprétait avec sobriété et j'étais du coup un peu déçu quand j'ai entendu le premier album parce que je trouvais que c'était un peu lisse la production. Ben, je crois qu'on a gommé toutes les aspérités, toutes les imperfections de sa voix. Il y avait un côté plus ambitieux, plus osé qu'elle a vite malheureusement gommé. Elle était, en fait, quand je l'avais vue la première fois en concert, elle était beaucoup plus folk qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que fatalement, elle était toute seule à la guitare. Il n'y avait pas de toute cette production, cette énorme machinerie derrière. Should I give up, or should I just keep chasing sidewalks, even if it leads nowhere, yeah.
Ça, c'est la version dénudée de Chasing Pavements, enregistrée dans les locaux du magazine américain Billboard. Et voici la version gravée sur 19, premier album d'Adèle, paru la même année, 2008. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Le producteur de ce morceau s'appelle Francis Egg White, dit Egg. Et Adèle raconte au magazine Rolling Stones « Je suis arrivée dans le studio d'Egg avec mes putains d'accords et je voulais les transformer en titres qui passeraient à la radio. Je voulais ce genre de grosse production commerciale qui me ferait remarquer par les gens. J'ai beau avoir été super heureuse quand je chantais devant 10 personnes dans des pubs, maintenant, je veux que le maximum de gens écoutent ma musique. » Les gens pensent que je suis sortie du ventre de ma mère en chantant Chasing Pavements. Merde alors, dit-elle. Personne ne fait ça comme ça. Au départ, Adèle voulait devenir chirurgien cardiaque. Mais la rigueur des études s'est révélée incompatible avec deux choses. La fiesta et les garçons. En 2002, à l'âge de 14 ans, elle intègre la Brit School, une école publique et gratuite qui est devenue le creuset des talents de la pop anglaise pour les années 2000. Amy Winehouse ou Lily Allen y ont été élèves. Véronique Chalmet.
Alors la Brit School, c'est un petit peu, pour schématiser, c'est un peu la véritable école de Fame, le film et la série. Elle a été conçue comme ça.
Donc une école artistique où on fait danse, chant, musique, Fame,
voilà.
Quoi.
Voilà, c'est ça, et où on peut entrer à partir de 14 ans et où on reste jusqu'à l'âge de 19 ans généralement. Et le parrain de la Brit School, c'est George Martin, donc le producteur des Beatles, qui n'était pas juste un parrain parce qu'il s'impliquait vraiment dans l'école. Et il mettait un point d'honneur à demander aux élèves et à les encourager à savoir tout faire, en fait, dans l'élaboration d'un album de musique, par exemple. C'est-à-dire savoir travailler en studio, mais savoir aussi créer des décors et surtout lire un contrat aussi.
Ça aussi, c'est l'incarnation d'une nouvelle figure féminine pop.
Tout à fait, parce que finalement, bon, les femmes étaient encore plus sous l'emprise de leurs managers, de leurs producteurs, qui s'appropriaient les droits, et puis on leur faisait signer un petit peu n'importe quoi, parce que finalement, elles n'avaient pas été éduquées à prendre le contrôle. Alors que, grâce à la Brit School et à ce genre d'école, effectivement, Adèle a été complètement formée à ça. Adèle, elle, est totalement en contrôle d'elle-même et de sa vie professionnelle. Elle gère les deux avec une main de fer. Elle fait un petit peu comme Céline Dion. Elles ont un peu le même genre de notoriété, sauf que Céline, c'était vraiment le produit de son Pygmalion, alors qu'elle, Adèle, se fait toute seule. Et c'est vraiment en ça qu'elle est particulière.
Hello? It's me.
Voici James Corden. Il est humoriste et présentateur anglais de l'émission The Late Late Show sur la chaîne américaine CBS. L'une des séquences de cette émission renvoie à une expérience qu'on connaît tous, être en voiture avec des potes et chanter comme si on était au Stade de France. Sauf que les potes de James Corden s'appellent Michelle Obama, Paul McCartney et en janvier 2016, Adèle. James est donc au volant, Adèle à ses côtés, tous les deux prêts à faire du karaoké en bagnole sur les chansons qui comptent pour elle. Et il y a donc ceci, dont je ne vais pas me priver de vous préciser le titre, Wannabe des Spice Girls, avec ce premier vers en anglais connu par cœur et qui dit « Hey, je vais te dire ce que je veux vraiment. » Et Adèle chante la suite. Quand Wannabe sort en 1996, Adèle a 8 ans et les Spice Girls popularisent un mot cantonné à l'underground jusqu'ici, le girl power, le pouvoir et la liberté des filles d'être qui elles veulent. Extrait de la conversation entre James Corden et Adèle au sujet des Spice Girls.
You used to be a huge Spice Girls fan.
Yeah, but you know, I saw this the other day. It was a genuine. This isn't a piss tape.
No.
Lorsqu'elles sont apparues, c'était un énorme moment dans ma vie. Il y avait le girl power et ces cinq filles ordinaires qui s'en sortaient et se débrouillaient si bien. Et moi aussi, je voulais m'en sortir. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais m'en sortir. C'était vraiment une période importante dans ma vie. C'est l'histoire d'une fille, dingue des Spice Girls, autant que de Billie Holiday ou Lauryn Hill. Elle se fout du bon goût et des chapelles, comme sa génération, celle qui vit son adolescence dans les années 2000, celle qui passe d'une chanson à l'autre, d'un registre musical à l'autre, dès qu'elle saura cliquer sur une souris. Mais Adèle fréquente les magasins de disques aussi. À Londres, elle a ses habitudes au HMV. Dans les bacs, elle passe en revue des vinyles et tombe en arrêt sur une pochette où il y a écrit « Etta James ». Elle adore d'abord son look. Eyeliner prononcé, qu'elle va largement copier, et blondeur platine. Et puis elle écoute le disque. Adèle fera une reprise de ce morceau, Fool That I Am, chanté par Etta James ici, en 1961.
Fool That I Am. For falling in love with you. And a fool that I am. For thinking
Elle dira que quand elle a découvert Etta James, elle s'est entraînée chaque soir chez elle pendant une heure à imiter cette voix. Et c'est devenu un petit peu son style à elle aussi. Et puis aussi ce côté femme forte aussi qu'elle admire beaucoup. Parce que Adele, c'est quelqu'un qui a été élevé uniquement par des femmes, par sa mère, par sa grand-mère. Donc il y a un côté aussi femme affranchie quelque part. Et en même temps, elle a une vie extrêmement dure. Bon, elle vient de la rue, elle n'hésite pas à dire qu'elle s'est droguée, qu'elle a volé, mais elle a commencé aussi à écrire vers l'âge de 14 ans. Donc elle a été happée par la musique et elle s'est sortie de son milieu par la musique. Et c'est ce que Adele rêve de faire aussi, bien évidemment. Fool that I am. For hoping, oh, you'd understand, and thinking you. Idiote que je suis d'être tombée amoureuse de toi. Idiote que je suis d'avoir cru que tu m'aimais aussi. Tous mes rêves ont disparu comme la fumée d'une cigarette. Alors ceci est un au revoir, chérie. Etta James touche Adele par sa voix, son look et ce thème. Le chagrin d'amour qu'elle ne cesse d'explorer en chanson depuis ses débuts. Son premier tube, Chasing Pavements, évoquait déjà une rupture où elle se demandait « Je dois lâcher l'affaire ou lui courir après ?» Darling, darling, this is goodbye. But I still care. And oh, fool that I am. Oh, but I still care. Fool that I am. Etta James, Bob Dylan, Sam Cooke, des artistes qu'Adele va reprendre en concert ou sur disque. Son premier album paraît en 2008. Et l'année d'avant, le magazine de la rédaction de France Culture consacre son numéro à un truc nouveau pour l'époque, un réseau social. C'est MySpace et Frédéric Carbone explique.
Peut-être faut-il d'abord repréciser l'enjeu. MySpace n'est pas qu'un site, c'est un peu le réseau des réseaux, la mise en relation d'internautes dans le monde entier pour partager des goûts, des envies, des projets. Et ce site communautaire est aujourd'hui le vecteur principal pour de nombreux groupes musicaux afin de se faire connaître et contourner les maisons de disques.
Et Adele en fait partie. Elle n'envoie pas de maquettes à des maisons de disques, elle les met en ligne sur MySpace. Et c'est là que le label anglais indépendant XL Recordings va la repérer d'ailleurs. Véronique Chalmet. Elle avait déjà des milliers de likes et de gens qui la suivaient sur MySpace avant même d'avoir signé son premier contrat. Donc elle a été une des premières finalement à savoir exploiter aussi ce créneau-là. Elle se sert d'Internet d'une manière dont justement, par exemple, des gens comme Amy Winehouse avant elle ne se sont pas servis, quoi. Elle est constamment sur les réseaux sociaux et bon, d'ailleurs, au début, elle a commis quelques dérapages. Il a fallu lui mettre des community managers un petit peu. Elle se filmait ou elle se prenait en photo et elle postait des commentaires quand elle était un peu pompette à certains moments. Donc elle disait des choses qui étaient regrettées par sa maison de production ensuite. Puis bon, c'est vrai que par rapport aux fans, il faut quand même entretenir un certain vernis. Il y a un mois pile, avant même la sortie du nouvel album d'Adèle, son community management attise l'attention des fans en publiant une vidéo d'elle dans son salon. Depuis son canapé, elle chante To Be Loved pour le monde entier. Le morceau figurera sur son nouveau disque et les fans sont ravis. Non seulement ils découvrent un titre, mais en plus, dans une version inédite. I built a house for a love to grow. I was so young. It was hard to know. Elle a les jambes repliées, on l'imagine en chaussettes. Ce serait Adele au naturel. En même temps, elle a des ongles parfaitement manucurés. Le storytelling d'Adele, ce sont ses allers-retours constants entre la femme du quotidien et la diva inaccessible. It's about time that I face myself.
C'est en 2009 que ce personnage de diva commence à se dessiner. Pour sa première cérémonie des Grammy Awards, Adele est totalement relookée par Anna Wintour, directrice du magazine Vogue. Au quotidien anglais The Guardian, Adele raconte « J'ai prévenu Anna tout de suite que je n'avais pas une, mais deux paires de fesses. »
Elle n'a jamais porté de talons hauts de sa vie. Quand elle a fait sa tournée américaine en 2008, parfois elle se produisait en chaussettes sur scène et en poncho. Enfin, elle n'avait pas ce côté glamour qu'elle a aujourd'hui. À partir de 21, ça va être autre chose, parce que sa carrière est déjà bien lancée. Et puis, on a quand même besoin, ses producteurs ont besoin, sa maison de disques a besoin qu'elle soit quand même beaucoup plus glamour. Donc ils vont la façonner, puis se laissent faire aussi, parce que finalement, elle se rend compte qu'elle a besoin aussi de ça pour capter son public.
Cérémonie des Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles le 12 février 2012. Une semaine plus tôt, Karl Lagerfeld déclare par voie de presse qu'Adèle est un peu grosse, ce à quoi elle répond « Je suis comme la majorité des femmes et j'en suis fière ». Comme la majorité, pas tout à fait. Avant son entrée en scène, Adèle a passé 2 heures entre les mains d'un maquilleur qui a sculpté son visage comme une artiste de cabaret. Faux cils, pommettes rehaussées, lèvres ourlées, Adèle commentera « J'avais le look d'une drag queen en fait ».
The scars of your love remind me of us, thank you.
Adele s'était fait opérer des cordes vocales quelques mois avant ce live pour les Grammy Awards. C'est donc la première fois qu'elle chante en public depuis cette intervention. Et la salle est debout. Quand je dis la salle, c'est par exemple Paul McCartney ou Rihanna. Conclusion d'Adele, je leur ai tous botté le cul.
Adele, c'est vraiment quelqu'un qui représente bien cette pop anglaise qui a digéré et qui a fait sienne un répertoire soul.
Et je vous présente Lisa Spada, une chanteuse familière du répertoire soul qu'elle vient d'évoquer, Pop & Co, Lisa Spada et la voix d'Adele.
Et effectivement, elle a quand même aussi un timbre très 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 jazz avec Ella Fitzgerald qui est vraiment en filigrane quand elle est dans la douceur. Il y a vraiment quelque chose de très naturel, de extrêmement fluide. Elle a effectivement ce côté un peu cendré des voix jazz et ça donne quelque chose de un peu granuleux. Quand je dis cendré, voilà, on pense un petit peu à ces ambiances de club jazz avec voilà, smoking cigarettes ou ces ambiances un petit peu bleutées.
Il y a l'idée d'un suspense vocal aussi dans la voix d'Adèle.
Oui, c'est vrai qu'elle tire les notes jusqu'au bout. On sent qu'elle prend énormément son temps. Elle pose toutes les notes. Et donc, il y a cette idée de suspens. Voilà, suspense, suspens. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Très, très détendue dans son chant. Même on pourrait enlever tous les arrangements, que la chanson sonnerait aussi puissamment.
Il n'y avait qu'un piano pour accompagner Adele ce soir-là, mais plusieurs milliers de personnes pour chanter « Someone Like You » avec elle. Ça s'est passé à Glastonbury, Angleterre, pendant l'un des plus importants festivals musicaux au monde.
Do it one more time for me. Scream it.
En 2011, dans une interview qu'Adèle accorde à Out Magazine, un journal gay et lesbien américain, elle raconte sa rencontre avec un fan de 15 ans. Il lui dit avoir fait son coming out à l'écoute de cette chanson « Someone Like You ». Le soutien à la cause LGBTQ+, est l'un des rares partis pris publics d'Adèle concernant des questions de société. Someone Like You figure sur 21, le deuxième album d'Adèle. On est en 2011 et l'année suivante, Adèle coécrit Skyfall, chanson d'un nouvel épisode de James Bond. Véronique Chalmet.
Alors Skyfall, c'est vraiment sa starisation absolue. C'est une espèce de sacralisation finalement de sa réussite pop. De la même manière qu'elle va obtenir le MBA, enfin qui est l'espèce de légion d'honneur finalement britannique des mains de la reine, comme les Beatles l'avaient eu avant elle. Adèle, c'est la gloire britannique à l'échelle planétaire, c'est vraiment ça.
À un moment où l'Angleterre doute d'elle-même.
Absolument, puisque l'Angleterre s'est repliée littéralement sur elle-même depuis le Brexit, en tout cas. Et donc, elle donne à voir le meilleur, finalement, de la Grande-Bretagne et ce caractère un petit peu universel de la culture et de la musique anglaise.
Hello, it's me, Adele.
Hello, it's me, quatre mots tout simples devenus viraux en 2015, puisque comme vous savez, c'est la première phrase de la chanson « Hello ». Le morceau ouvre l'album 25, qui, pour l'industrie du disque, coche tous les records du 21e siècle, en tout cas jusqu'à présent. Record de récompenses, record de ventes, record de vues, pas loin de 3 milliards sur YouTube. L'image d'Adèle refermant un téléphone à clapet en 2015 est devenue culte. Le clip a été réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan.
C'est le début de son esthétique où elle rejoint les stars hollywoodiennes. C'est-à-dire qu'elle est filmée en noir et blanc, on voit ses yeux en gros plan.
Enfin, il y a l'eyeliner, très 50s.
Ouais, tout à fait. Et Xavier Dolan sait très très bien faire ça et sait très bien jouer avec donc cette espèce de cette série de codes qui exalte une espèce de nostalgie justement des années glamour hollywoodiennes.
Et en plus, Dolan, il est branché. C'est-à-dire que elle conjugue une popularité démente plus un côté quand même auteur, primé à Cannes, c'est un peu marié tous les publics là.
Oui, et puis en plus, il y a un côté un petit peu indie, donc indépendant, qui a façonné Adèle à ses débuts, parce qu'elle avait signé chez XL Recordings, qui était un label indépendant. C'est un petit peu retrouver cette créativité décalée qui joue sur à la fois les codes de la nostalgie, et puis en même temps sur quelque chose effectivement de très branché. Elle arrive à concilier tous ces contraires-là.
Les enjeux commerciaux qui se sont noués petit à petit autour d'Adèle, cet album, 25, a été conçu comme une machine de guerre.
Alors 25, ça a été conçu comme une machine de guerre, oui, parce que finalement, elle a requis, si je puis dire, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, les services de producteurs assez illustres, qui l'avaient déjà accompagnée pour certains lors de son premier album, comme Mark Ronson, qui s'est occupé d'Amy Winehouse, des gens comme Max Martin, qui sera un de ses producteurs de 30, qui fait partie un peu de la fabrique à tubes suédoise. Donc en fait, ce sont des faiseurs de hits qui travaillent les morceaux d'une manière, enfin comme des orfèvres en fait, en sachant à quel moment on doit donner une inflexion un peu plus pathos à la musique, à quel moment on doit remonter un petit peu et donner un petit peu plus de dynamisme. Enfin, c'est très étudié, c'est quelque chose de complètement millimétré. Et donc, en fait, elle entre dans cette tradition des grosses machines.
Ça fait miauler le chat.
Oui.
Retour en Angleterre avec le journaliste Jean-Daniel Beauvalet. Et pour ce qui concerne ces textes, qu'est-ce que vous pensez de ces textes, vous, Jean-Daniel ?
Alors, très honnêtement, c'est pas quelqu'un que j'écoute, déjà c'est pas quelqu'un que j'écoute au quotidien, parce que on n'a pas besoin d'écouter quand on vit en Angleterre, on l'entend tellement partout que... Et les paroles m'ont toujours paru assez neutres, assez javelisées. On appelait ça des disques de fête des mères à une époque, ce genre d'album, avec un peu de condescendance. C'est quelqu'un dont on a l'impression qu'elle veut blesser personne. Elle est extrême centriste, en fait. Je pense que des gens se reconnaissent dans ses chansons. C'est pas de la philosophie, c'est pas non plus grossier comme Oasis. Enfin, ça me paraît quand même assez dingue aujourd'hui que Adèle ait 3 albums dans les 10 albums les plus vendus d'histoire de la musique. Et elle est plus grosse vendeuse que les Beatles, par exemple.
Selon la presse anglo-saxonne, la campagne de communication pour le lancement de 30 nouvel album d'Adèle est estimée à 50 millions de dollars.
Le chiffre 30 a été projeté sur l'Empire State Building à New York, sur le Colisée à Rome ou sur la Tour Eiffel. 5 jours avant la sortie du disque, Adele se confie à l'américaine Oprah Winfrey sur sa vie intime ou sur sa nouvelle silhouette, désormais amaigrie et musclée. Un concert inédit est aussi télédiffusé sur CBS. Elle l'a donné devant un parterre de célébrités sur le site du Griffith Observatory. C'est à Los Angeles, mais ça a l'air de se passer sur le Mont Olympe. I know you've got things to do. I do too. I just want to spend all my time with you. Feels so good. I'm so hard to impress, don't leave me on this stretch alone. When I'm out at a party, I'm just excited to get home. Dream about you. Text, I want to get on the next flight home and dream next to you. Récit du jour, les citations d'Adèle ont été puisées dans la presse et beaucoup dans Hello, It's Me, une vie d'Adèle, biographie écrite par Véronique Chalmet, parue aux éditions Hors Collection. Le dernier album de la chanteuse Lisa Spada s'intitule I Rise et Passeur, c'est le titre du livre de Jean-Daniel Beauvallet, publié aux éditions Braquage.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Avant même que je ne lui soumette la liste des morceaux diffusés en ce moment sur France Inter, Alex Baupin avait fait ses devoirs. Il avait choisi la chanson d'un ou d'une collègue pour Pop & Co avant qu'on entre dans les coulisses d'une de ses chansons à lui.
Alors j'ai choisi le titre d'un garçon qui s'appelle Lenoiseur. Son titre c'est Relax. Et je l'ai choisi parce que j'ai écouté son album quand il est sorti et il n'y a pas une chanson dans cet album qui me plaît pas. Voilà, il y a une espèce de décontraction et de nonchalance, vous allez voir, qui est très plaisante ces temps-ci.
Et le nouvel album de Simon Campocasso, dit Lenoiseur, porte aussi ce titre. Relax. Sur la pochette, il pose avec une sucette dans la bouche.
Tu regarderas plus jamais le ciel. T'écouteras plus jamais le vent. Tu diras plus la vie est belle. Comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. Relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool.
fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait maintenant. Y aura plus de tempêtes, de roulettes russes, de temps qui presse. Y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait.
Voilà, c'est chez moi.
Bienvenue chez Alex Baupin.
Alors, qu'est-ce que ça donne, Sorry Angel?
Sorry Angel est la chanson qui ouvre Love on the Beat, 16e album de Serge Gainsbourg. Et 35 ans après sa sortie, Alex Baupin reprend ce disque en entier. Alex Baupin a 10 ans quand l'album est publié en 1984. Il y a les textes, la musique et aussi la pochette réalisée par William Klein. Aujourd'hui, c'est l'une des images cultes de la pop française. Gainsbourg travesti, cigario dressé entre le majeur et l'index, des ongles longs, du rouge aux lèvres, des fossiles et un accroche-cœur au front.
Moi, ce que ça m'a fait, j'avais 10 ans quand c'est sorti, et vraiment, je ne l'ai pas comprise. C'est-à-dire que je voyais bien que cette femme était étrange, je pensais que c'était une femme. A priori, je la classais dans la catégorie des méchantes, des méchantes de Walt Disney, par exemple, mais il y avait quelque chose de très impressionnant. Et c'est que, des années après, peut-être quand j'ai eu 13 ans, un truc comme ça, que revoyant la pochette, je me suis dit, mais je suis con, c'est Gainsbourg, en fait. On peut considérer que c'est Gainsbourg parce qu'il y a une provocation à se présenter comme travesti. Et en même temps, Gainsbourg est quand même un personnage... un peu alcoolique pour moi, un peu réac. C'est presque le côté un peu beauf de Gainsbourg. Gainsbourg, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est celui qui se permet tous les excès que lui, homme cultivé du 19e, etc., va pas se permettre. Et pour moi, on peut considérer que la pochette est gainsbourgienne parce qu'il y a la provocation de se travestir. Et en même temps, la volonté qu'il avait de se présenter comme un travesti extrêmement joli, comme une femme extrêmement distinguée et sensuelle, il y a là-dedans quelque chose qui va au-delà du côté un peu beauf Barnum qui était Gainsbourg et qui rejoint pour moi la sensibilité et l'élégance d'un Gainsbourg. Enfin, je trouve que c'est plus Gainsbourg que Gainsbourg en réalité.
Oui, parce qu'en fait, cette sophistication extrême de la pochette, elle est finalement complètement à rebours du côté cracra parasé.
Exactement. C'est... Ben, d'ailleurs, c'est... la pochette fait référence aux chansons homosexuelles qu'il écrit dans Love on the Beat, qui sont des chansons où il n'y a aucune espèce, à mon sens, de provocation, de volonté grivoise, salace. Tout ce qui est l'aspect homosexuel du disque était la vraie nouveauté à laquelle Gainsbourg nous confrontait en 84 avec Love on the Beat. Je trouve que c'est traité d'une façon extrêmement élégante. On est dans une vision, un imaginaire homosexuel qui, en gros, je le répète souvent, mais c'est vrai, est autre chose que le rire du sergent de Sardou ou la cage aux folles. On est dans quelque chose d'extrêmement chic. C'est prendre au sérieux ce que ça veut dire l'homosexualité quand elle s'exprime artistiquement au XXe siècle. Et je pense qu'en France, en chanson ou dans les films, pour quelqu'un qui est mainstream, en plus, on parle de quelqu'un qui est populaire, on parle pas de Jean-Guy Denis, hein, à l'époque, on parle de Gainsbourg, qui vend 400 000 exemplaires de cet album, je trouve que c'est pas la moindre des audaces.
2021, Alex Baupin a repris la matrice de cette image pour la pochette de son disque, et voici sa version de Sorry Angel.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Et tes vertiges, des veines, qui sait. Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais.
Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets.
Sorry Angel, c'est drôle, c'est la chanson qui est le premier single de l'album. Peut-être parce que c'est la chanson la plus admissible de l'album. Certaines ne l'étaient pas à cause du fait que c'était des chansons homosexuelles et qu'à l'époque c'est compliqué. Après on a Love on the Beat, Lemon Incest qui fait polémique à cause de l'idée de l'inceste. Enfin voilà. C'est la seule chanson en fait qui sort en single, qui fait un succès assez considérable je crois et qui permet de... qui est la locomotive de l'album en quelque sorte. Et c'est la plus admissible, mais c'est aussi pour moi une chanson assez étrange de Gainsbourg. Parce que peut-être pour la première fois dans sa carrière d'interprète, il chante une chanson de rupture où il n'y a ni misogynie, ni ironie, ni second degré. Ce qui était le cas avant, il était dans ce personnage-là. En fait, il chante une chanson de Birkin pour moi quand il chante Sorry Angel. Les chansons qu'il écrivait pour Birkin, qui étaient sublimes et qui étaient vraiment dans cette espèce de désespoir, toutes les chansons qu'il écrit après la rupture. Bah,
il la faisait chanter.
Voilà, et sauf que là, c'est lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, je trouve cette chanson émouvante parce que c'est peut-être la seule chanson de Gainsbourg où il est aussi à nu. Dans les sentiments qu'il exprime après sa rupture avec Birkin. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même pas lui qui va mourir. Et qu'il a changé au dernier moment le texte de « c'est toi qui m'as suicidé » en « c'est moi qui t'ai suicidé ». C'est quand même la fille qui meurt chez Gainsbourg. Il y a quand même un vieux réflexe de mec qui fait que ça, il y tient. Ce qui est dommage, s'il était allé jusqu'au bout, moi j'aurais trouvé ça encore plus beau.
Effeuillez la reprise de Sorry Angel par Alex Baupin, entrez dans les coulisses de sa version piste à piste, c'est Pop & Co ce matin.
Quand Valentine Duteil qui a arrangé les cordes, il faut le dire quand même. Moi, j'ai eu l'idée de mettre des cordes dans cet album, mais une fois que j'ai l'idée, je serais bien incapable, moi, de les arranger. Quand elle a proposé cette vague-là, cet ostinato-là, moi, je me suis dit, ça y est, on a trouvé quelque chose qui va être à nous, de cette chanson, et qui, en même temps, correspond à l'esprit de la chanson. Et donc, il y a quelque chose comme ça, de flux et de reflux, bah, je vais et je viens. Entre terrains, on retombe tout le temps dans des choses gainsbourgiennes, hein, sans faire exprès, mais...
Pourquoi vous avez eu l'idée des cordes? Parce qu'il n'y en a pas, non, évidemment, dans le disque de départ.
Les cordes, il y a deux choses. La première idée, c'était que dans les années 80, les cordes ont complètement disparu du paysage musical. On est dans l'apparition des synthés, de la musique électronique, analogique, et donc ça me semblait intéressant de me dire, si je reprends ces chansons aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui on ferait? Les cordes ont fait leur réapparition. Donc les remettre, c'est assez cohérent, et en plus, il y a l'idée que... qui est un peu idiote, mais je crois que c'est vrai, qu'à partir du moment où on met des cordes derrière une chanson, on a l'impression que la chanson, elle est importante. Ça lui donne une espèce de somptuosité, de solennité, de quelque chose de facture classique, vous voyez ce que je veux dire, qui fait qu'on dit « Ouh, attention, là, c'est pas des conneries, puisqu'il y a des cordes. » Il y a presque un truc grand mélodrame dans le fait de jouer cette chanson comme ça avec les cordes. Je sais pas pourquoi, mais ce genre de truc, ça me fait penser à Almodovar aussi, vous voyez, ces choses où tout d'un coup, on est dans le mélo, mais alors dans le texte, dans la façon dont on fait la chanson et dans les cordes, on y va jusqu'au bout, quoi, elle va mourir. Et on le sent. Ça me plaît.
Pour la réalisation de Sorry Angel, Alex Baupin a travaillé avec deux producteurs-arrangeurs, Bastien Doremus et Saint-DX. Alex Baupin précise, ils ont 10 ans de moins que moi. Ils ont amené des sons comme ça dans son univers.
Et ça permet quand même d'ancrer la musique dans une actualité, parce que ce truc de... C'est ce qu'on peut retrouver dans des choses qui sont de l'ordre de l'afro-trap, ou de... Je suis en train de vous dire des trucs, hein, parce qu'on m'a fait écouter des choses, mais je suis nul, en fait. Je fais comme si je connaissais quoi que ce soit, mais je suis un peu une taupe dans l'océan quand on parle de trucs comme ça. Mais quand même! Et ça ancre la chanson dans quelque chose d'encore plus dramatique, moi, je trouve. Voilà. Là, on va dans les souterrains, quoi.
Sur ce qui va se passer...
Ah, ça fait peur. On a ces trucs là. Ça fait flipper quand même. On l'entend pas forcément quand on entend la chanson, mais c'est là. Il y a un autre truc du même ordre, si vous permettez, qui donne ce truc là pour moi, cette espèce de guitare insensée. Et je trouve que ça donne une espèce de fantôme de guitare comme ça derrière, qui me plaît comme idée, parce que moi en plus j'avais l'idée qu'il fallait très peu de guitare dans cet album. Comme Love on the Beat était très guitaristique, je me disais deux choses. Si on veut s'en éloigner, on va rajouter des cordes et on va éviter absolument le saxo, qui est vraiment une marque de fabrique des années 80 de cet album, et au maximum les guitares, qui étaient l'instrument de Billy Rush, l'arrangeur. Et qu'elles soient comme ça fantomatiques, ça me plaît beaucoup.
Et ça fait assez cinégénique aussi, parce que je trouve que c'est proche des bruitages de films. Ce côté...
absolument. En fait, de toute une vague de bruitages qui viennent, bon, qui arrivent au cinéma avec très clairement David Lynch et Badalamenti. Quelque chose qui sera de l'ordre
non plus seulement de la musique, mais aussi du sound design, de l'atmosphère. Et dans ce truc-là, il y a cette idée-là, ouais, aussi, évidemment.
On écoute la voix.
La mienne, que je ne fais pas forcément bien. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà.
Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait ? Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais.
Et c'est tout. C'est que ça parle, mais parfois ça chante. Quand on l'entend tout seul, c'est même un petit peu ridicule, ce d'où on ne revient jamais, et un truc comme ça. Mais que lui faisait pas mal, qui était un de ses tics vocaux à la fin de sa carrière, qu'on entend beaucoup dans les concerts notamment. Ça m'amusait d'être dans une espèce d'imitation, qui soit plus une incarnation, j'espère, qu'une imitation. Après, moi j'ai fait le choix d'une interprétation un peu blanche. Mais j'essaie de pas en rajouter sur le désespoir, par exemple, de cette chanson-là. Je me dis que la poésie du texte suffit à elle-même. À ce moment-là. C'est Isabelle Huppert, vous voyez ? Quand elle joue une méchante Isabelle Huppert, elle a cette voix comme ça un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Blanche, ou elle, voilà. Et ben, je trouve qu'avec les textes de Gainsbourg, ça marche. Je suis pas Isabelle Huppert, je suis beaucoup moins bonne actrice, mais avec les textes de Gainsbourg, il y a un truc qui marche. Je sors de là, on se dit, mon Dieu, mais c'est terrible ce que raconte ce type. Et c'est d'autant plus terrible qu'on le dit avec l'air de s'en foutre totalement.
Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets.
Est-ce qu'il vous a changé, ce boulot, ce travail de...
Ah oui. Faire des reprises de chansons ponctuellement, pour des concerts, pour rigoler, tout ça, machin, sans forcément les graver sur disque, bon, ça va. Encore que généralement, quand je faisais ça, j'avais tendance, c'est vraiment fourbe de faire ça, genre je reprenais, vous voyez, qui sont des chansons que j'aime bien pourtant, mais je reprenais Ouragan de Stéphanie de Monaco. Quand on prend Ouragan, personne ne va hurler au sacrilège. Il n'y a pas de gardien du temple qui vont venir vous dire « Mais comment oses-tu t'attaquer à ce chef-d'œuvre de la chanson française qui est Ouragan ?» Bon, là, je prends un truc qui est Gainsbourg. Voilà. Et en plus, j'y rajoute des cordes. J'essaie de me mettre à sa place, enfin, en tout cas de l'incarner. Et puis aussi, quand même, j'ai réuni dans cet exercice-là plein de choses que j'avais abordées vraiment ponctuellement dans mes albums à moi précédemment. Une façon de parler de sexe, que j'essayais de faire, mais sans aller aussi loin que lui. Ça, maintenant, ça m'intéresse de voir comment je pourrais le faire, moi, avec mes mots à moi. Enfin, après cet album, je me dis, tiens, c'est intéressant à la fois d'aller chercher ce qui me fait moi, par exemple les cordes, par exemple certains textes, etc., et à la fois d'aller se confronter à des gens qui font des choses que je sais pas faire. C'est la première fois que je le fais autant.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais.
Love on the Beat par Alex Baupin est un album disponible depuis cet automne et le dimanche 23 janvier, il l'interprétera en public pour la première fois à l'auditorium de la Maison de la Radio. Ce sera dans le cadre d'un week-end de concerts organisé partout dans cette maison, 3 jours de musique entre le 21 et le 23 janvier prochain, 3 jours qui s'appellent l'Hyper Weekend Festival. Toute la programmation est disponible sur le site hyperweekendfestival.fr. Koyan Guyane réalise Pop & Co chaque semaine et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Ilinka Negulesco trouve les pépites d'archives et la doc. Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, c'est Noël. Je vous propose donc la réécoute d'un Pop & Noël de David Bowie à Johnny Hallyday. À samedi